France Culture.
Bonjour Anne Bouillon.
Bonjour.
Pour ce dernier épisode, je voudrais qu'on se tourne du côté de la justice, du droit, du rôle de la justice dans la société face aux violences faites aux femmes et aux violences sexistes. Vous disiez en fin d'épisode précédent, on ne fait rien. Alors d'abord, c'est qui « on » et pourquoi dites-vous qu'on ne fait rien ?
Oh, ça mérite d'être nuancé. Je m'adressais à la société tout entière. En fait, on agit, on ne fait pas assez. Finalement, lorsque je dis ça, moi, j'ambitionne qu'on change de paradigme, qu'on renverse la table, qu'on change de manière d'être et d'organisation de société. Et peut-être que ça vous paraît totalement utopique ou irréalisable. Moi, je crois pas. Je crois qu'on peut véritablement réinventer... J'allais dire réenchanter nos rapports de couple, nos rapports femmes-hommes, notre manière d'interagir. Sans doute, voulais-je dire, on ne fait pas assez, parce que ce qu'on constate, c'est que malgré toute la mobilisation qui peut être la nôtre, toute la conscience collective qui est la nôtre, on parlait de MeToo, eh bien, ce qui ne change pas, ce sont les violences faites aux femmes. Ce qui ne change pas, c'est le nombre de viols. Ce qui ne change pas, c'est le nombre de femmes tuées chaque année. Ce qui ne change pas, c'est l'inceste.
Ça a un petit peu baissé en 2024. On est passé de plus de 100 000 à un peu moins de 100 000. Allez, en essayant de donner un peu d'espoir. 96 féminicides en 2024, c'est encore évidemment 96 de trop, mais bon. On est autour de 200 000 viols par an, 213 000 femmes victimes de violences conjugales. On dit qu'environ une femme sur six est encore victime de violences sexuelles dans
ça.
Sa vie.
Ouais.
Bon, ça fait quand même encore beaucoup. C'est ça que vous dites. Ça ne bouge pas assez.
Mais ça ne diminue pas. Non, ça ne diminue pas. On peut pas raisonnablement pas considérer que les choses diminuent à la faveur d'une année où le chiffre aurait été un peu inférieur aux autres années. Ce qu'on sait, c'est que une femme est tuée tous les 3 jours à peu près. Il faudrait y ajouter les tentatives de meurtre qui sont extrêmement nombreuses, et il faudrait y ajouter les femmes qui sont poussées au suicide et qui finissent par mettre fin à leur jour tant leurs conditions leur est insupportable.
Donc c'est un problème de justice, de politique pénale, de société.
C'est d'abord un problème de société. C'est d'abord un problème de rapport aux femmes et de ce que les femmes subissent et ce que les hommes, comme appréhendés comme catégorie sociale, hein, entendons-nous bien, leur infligent la croyance qu'ils ont, qu'ils sont légitimes à infliger ça sur les corps des femmes et sur les enfants. C'est important de rappeler que les enfants subissent également ce système-là et que cette violence, elle s'abat sur le corps des enfants et l'inceste est quelque chose qui ne diminue pas et qui est également extrêmement structurel de notre société. Donc oui, on peut changer de société, c'est un problème de société. Et quel est le rôle de la justice là-dedans ? C'est, et du droit, vous avez raison. Le droit, il vient dire qui nous sommes ou qui nous voulons être collectivement comme société. Il vient poser des interdits, il vient définir des limites qui doivent être infranchissables. Il est le reflet précis de notre manière de concevoir la place des femmes et la manière dont on a de les protéger.
Est-ce qu'une chose qui peut paraître importante ne serait pas, Anne Bouillon, de se placer du côté des agresseurs cette fois et de comprendre les ressorts des agressions? C'est un peu ce que vous faites d'ailleurs dans votre ouvrage quand vous établissez une typologie des viols, par exemple, en disant il y a des viols de domination, des viols de prédation, des viols de réappropriation, des viols d'opportunité. Je pense à ce viol d'opportunité est sans doute éloquent aujourd'hui pour les auditeurs et les auditrices qui nous écoutent, parce que il a été pas mal évoqué dans l'affaire du procès Mazan, justement, les viols d'opportunité, pour expliquer ces viols de Mazan. Mais est-ce que établir cette typologie, c'est-à-dire essayer de comprendre les mécanismes de la violence, aide pas à déjà comprendre, quoi.
Oui, bien sûr. Moi, je valorise beaucoup le travail des sociologues, parce que on a besoin de comprendre ce qui nous structure et ce qui nous met en mouvement et ce qui nous les choix que nous avons faits pour adopter tel ou tel type d'organisation. Et vous avez raison de dire qu'il faut se placer du côté des auteurs, mais à plein d'endroits, il faut se placer du côté des auteurs, parce que comprendre et les inviter à réfléchir sur les raisons pour lesquelles ils ont posé ces actes-là, c'est nous amener au cœur du sujet. Sur les viols, moi, je vois tellement. Vous savez, nos juridictions, elles sont surencombrées de dossiers de viols. Ça occupe l'essentiel des cours criminelles départementales. Le contentieux premier, c'est les viols. Mes armoires débordent de dossiers de viols et les femmes que je rencontre subissent des viols en masse. Et évidemment, les viols ne se ressemblent pas. J'ai essayé, alors je suis pas sociologue, mais j'ai essayé de catégoriser ce qu'il m'avait été donné de rencontrer de manière empirique. Et vous avez ces viols de prédation, ces viols de réappropriation. On en parlait lors de la dernière émission où le conjoint de Stéphanie avait éprouvé le besoin de la violer. Il avait dit, elle m'avait trompé, il fallait qu'elle paie. Donc, comme un conquistador qui se réappropriait une terre qui lui échappait, il avait perpétré un viol sur Stéphanie. Mais le viol d'opportunité est précisément celui qui m'interroge le plus, c'est-à-dire que je rencontre dans les prétoires, vous faites allusion au procès de Mazan, des hommes que l'on pourrait qualifier ordinaires, en tout cas pas des monstres, en tout cas pas des personnes qui seraient comme ça des prédateurs à l'affût, préméditant leurs gestes, mais... Et Gisèle Halimi le disait tellement mieux que moi il y a quelques décennies de ça, elle disait que c'était la vie normale qui faisait le violeur, la vie normale. C'est-à-dire que à la faveur de circonstances comme ça, qui se présentent, eh bien, il y a des hommes, pas tous les hommes, mais il y a des hommes qui basculent et qui franchissent l'infranchissable. Et qui ont même du mal à concevoir qu'il s'agit d'un viol, en fait. Mais là, à Mazan, à la faveur d'une rencontre avec un mari qui drogue sa femme et du corps inerte d'une septuagénaire, eh bien, ces hommes perpétuent un viol. Alors, il n'y a pas viol et viol, hein, comme on a pu l'entendre. Il y a le fait d'imposer par surprise un acte de pénétration sexuelle. Et ça, ça interroge, en fait, parce que qu'est-ce qui fait que ces hommes... à cet instant-là, se croit autorisé à ne pas s'empêcher. Moi, c'est ça la question qui m'intéresse. Qu'est-ce qui fait qu'ils se sont pensés légitimes à ne pas s'empêcher ? Eh bien ça, ça nous renvoie directement à la culture patriarcale qui est la nôtre et à la culture du viol.
Ce ne sont pas des mots galvaudés pour vous ?
Pas du tout.
Ce ne sont pas des mots fourre-tout. Ils veulent vraiment dire quelque chose. Ils reposent sur une réalité.
Ben, que je constate, en fait. Que je constate, et je souhaiterais tellement qu'il en soit autrement, et je pense qu'il peut en être autrement, mais moi je rencontre des hommes qui ont commis des viols et qui sont des petits gars bien, des chouettes voisins, des collègues sans doute super sympas, et ça ne les définit pas entièrement, mais à un endroit, à un moment, ils ont eu la conviction que c'était OK. Et c'est ça qui m'intéresse de travailler.
On évoque le procès Mazan et il est là en permanence puisque nous enregistrons, je le rappelle, et nous diffusons ces émissions au début de l'année 2025. Le procès vient de se clore. Qu'est-ce qu'il a représenté pour la société ? Qu'est-ce qu'il peut avoir changé ? En tous les cas, déjà, qu'est-ce qu'il a représenté ?
Une déflagration pour l'opinion publique à l'évidence, un phénomène de société pour les médias à l'évidence, qui se sont gardés de traiter ça par le biais du fait divers ou du sensationnalisme. Donc moi, j'étais très rassurée de voir que les choses étaient appréhendées dans le bon sens. Je pense qu'il représente surtout une occasion à saisir. C'est en tout cas l'invitation qui nous a été faite par Gisèle Pellicot. Quand on parlait tout à l'heure de changer le système, c'est vraiment ce qu'elle a souhaité faire. Peut-être dire que moi, je défends beaucoup de femmes qui refusent le huis clos également pour les mêmes raisons. On en a déjà parlé. Mais une occasion à saisir précisément parce que sur le banc des accusés étaient assis non seulement des hommes ordinaires, mais était assise finalement toute notre société sur le banc des accusés. Qu'est-ce qui fait que ces hommes-là se sont retrouvés dans ces circonstances-là, accusés de viol après l'avoir commis ? Donc une occasion à saisir, vous disais-je, parce que ça nous permet de réfléchir sur nous et peut-être de revoir nos logiciels.
Et peut-être aussi un procès pour des hommes ordinaires, mais un procès extraordinaire, dans la mesure où les condamnations n'ont pas été représentatives de celles en général, puisqu'on évoquait quelques chiffres. 8% encore aujourd'hui portent plainte seulement pour les femmes qui ont été victimes de violences sexuelles. Et sur ces 8% de plaintes, 76% sont classées sans suite, après des années de procédure. D'où vient ce dysfonctionnement ? Est-ce que là aussi, il n'y a pas un problème de justice pour le coup ? On parlait de la société, mais du côté de la justice, est-ce que la justice fait vraiment bien son travail ?
Écoutez, la justice est au travail. Est-ce qu'elle le fait bien? C'est variable. Est-ce qu'elle peut mieux faire? Assurément. Mais la justice, elle est en dialogue constant avec notre société. Et évidemment, lorsqu'on la met au défi et lorsqu'on lui demande de mieux faire, alors elle doit se saisir de cette injonction qui lui est faite. Les magistrats, c'est vous et moi, hein. Les magistrats, c'est des gens qui sont formés ou pas, qui sont pétris de biais sexistes ou pas, qui ont des biais de représentation ou pas, et qui sont aussi en chemin sur ces questions-là et qui traitent la parole des femmes de manière différente et qui peuvent... Les policiers, c'est la même chose. Qu'est-ce qui fait une différence dans un dossier? C'est est-ce que le dossier va être investigué ou est-ce qu'il ne va pas l'être? Qu'est-ce qui fait qu'il va pas l'être? Eh bien, ça peut être non seulement l'absence de crédit donné à la parole de celle qui vient déposer plainte, mais ça peut être aussi l'absence de volonté d'investiguer un dossier, puis ça peut être l'absence de moyens. Tout ça se conjugue, hein. Moi, je crois que dans les dossiers de viol, précisément, si on parle d'eux, il faudrait qu'il y ait quand même un minimum d'actes d'investigation obligatoires qui parfois ne sont pas faits. Et ce qu'on constate, c'est que lorsque les dossiers sont investigués, alors les preuves émergent. Rappelez-vous, le procès Mazan, ça commence par un vigile qui interpelle Dominique Pellicot, qui est en train de filmer sous les jupes des femmes d'un supermarché. Et à partir de là, les enquêteurs qui font bien leur travail saisissent le matériel informatique, constatent qu'il y a en fait un océan de crimes derrière ce fait-là, et on arrive au procès de Mazan. Sans atteindre ces paroxysmes-là, quand les dossiers sont investigués, on fait émerger des preuves. Donc, il faut que les dossiers soient investigués parce qu'il y a une volonté politique, parce qu'il y a une volonté des procureurs de la République, parce qu'il y a des politiques pénales qui sont volontaristes sur ces questions-là, mais aussi parce qu'on a développé une culture de la protection, une culture de l'écoute des femmes, et parce qu'on a donné des moyens. Lorsque les dossiers des enquêteurs s'empilent jusqu'au plafond et qu'ils n'ont pas les moyens d'organiser une garde à vue, d'organiser des interpellations, des confrontations, alors effectivement, les dossiers, et j'en ai tellement, sont en déshérence et en souffrance pendant des années, et les victimes aussi sont en souffrance.
On parlait hier dans l'épisode 4 de la façon dont MeToo avait pu changer les choses, alors essentiellement du point de vue de la libération de la parole, mais aussi de votre travail d'avocat. Est-ce que ça a changé quelque chose du point de vue de l'institution judiciaire? Est-ce que les plaignantes sont mieux accueillies, que l'écoute par la justice a progressé? Est-ce qu'il y a moins de préjugés? Ou est-ce qu'il y a parfois quand même encore une violence supplémentaire du point de vue de l'institution?
Tout existe. C'est très disparate. Moi, je fais partie d'un réseau d'avocates où on se rencontre à la FNSF, la Fédération Nationale de Solidarité Femmes. Vous savez, c'est cette association, cette coordination d'associations qui gère le 3919, et c'est toujours utile de le rappeler, ce numéro d'appel d'urgence, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et donc, on se retrouve, toutes ces avocates et puis ces activistes bénévoles, à échéance régulière, et on compare nos pratiques et on compare ce qu'on rencontre sur le territoire national. À Nantes, on a la chance d'avoir un procureur de la République qui était très très volontaire sur ces questions. On a eu un espace refuge pour les femmes qui s'appelle Citadelle, qui est ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. On a des policiers qui sont au travail et qui sont formés. Mais moi, j'ai encore à connaître de situations où les femmes sont maltraitées, sont mal reçues, sont pas écoutées, sont méprisées. Hier, je recevais une femme qui a dû déposer plainte à 3 reprises avant que sa plainte soit sérieusement prise par les enquêteurs, et dans un département pas très loin d'une autre. Donc c'est très aléatoire, ça va mieux, les choses sont en progrès, mais ça reste quand même très, très variable.
Vous intervenez dans les écoles de formation des policiers, des magistrats ?
C'est déjà le cas, il y a des formations qui existent, il faut intervenir dans les écoles, et puis il faut continuer à... Comment dire ? Il faut continuer à réhabiliter la parole des femmes. Il faut continuer à faire ce qu'on est en train de faire. Dire que cet océan de souffrance là, c'est pas un impondérable. Et il faut continuer à. Alors il faut nous doter de moyens. C'est peut-être trivial, mais c'est tellement vrai. Il faut qu'il y ait un budget de la justice qui soit proportionné. C'est pas le cas. Il faut qu'il y ait des moyens dédiés à la lutte contre les violences faites aux femmes qui soient proportionnés. Et c'est toujours pas le cas. Il faut que le droit suive. Il y a tellement de réformes législatives que nous pourrions faire pour améliorer les choses, c'est au travail. Mais il faut travailler sur les causes profondes. On a de cesse de le dire depuis le début de cet entretien. Il faut venir travailler sur l'éducation que nous donnons à nos enfants, sur cette culture de l'égalité qui doit être promulguée. Enfin, comment dire ? L'idée de l'égalité parfaite entre les femmes et les hommes, c'est pas encore une idée qui fait consensus partout, hein. Voilà, l'idée de ce qu'il y aurait un genre dominant, eh bien, c'est une idée qui est très communément partagée. Donc, les combats féministes, ce sont des combats de libération pour les femmes et pour les hommes. C'est nous émanciper des injonctions à être ou à ne pas être. Et c'est extrêmement réjouissant parce que ça nous propose une alternative possible plutôt que ce modèle qui est violent et mortifère, on vient de le rappeler.
Est-ce que les procès sont là aussi pour réparer, Anne Bouillon ? Est-ce qu'ils peuvent réparer ?
D'abord, les procès sont des espaces politiques, on l'a dit, mais les procès sont politiques dès lors que on y convoque notre système d'organisation sociale. Et moi, j'ai l'ambition, sur les questions de violences faites aux femmes, d'en faire des procès politiques. Et je crois que le procès de Mazan était un procès pour l'histoire et un procès politique. Maintenant, la question, est-ce que le procès répare, c'est répare qui ? Le procès n'est pas un soin, c'est pas une catharsis, c'est pas une thérapie, mais évidemment que ça peut participer de ce processus de réparation. Et moi, je crois que ça peut réparer la victime et que ça peut réparer l'auteur, et je crois que ça peut réparer également la société. Il y a un besoin de justice énorme, flagrant. Il y a toutes ces voix qui s'élèvent, y compris de manière disparate parfois, y compris de manière désordonnée parfois. On voit comment ça balance sur les réseaux sociaux, dans les médias, etc. Et on voit aussi corrélativement comment il y a certains et certaines qui s'empressent à rappeler un mezzo voce ou une injonction au silence. Voilà, dès que les femmes parlent, on leur reproche souvent de parler un peu trop fort et un peu trop haut. Mais ce besoin de justice, il est énorme. Le procès est cette occasion aussi à saisir de venir remettre de l'ordre dans ces systèmes absurdes dont nous parlions également, c'est-à-dire de bien nommer les choses, de dire « il y a un auteur, il y a une victime, vous n'aviez pas le droit de faire ça, vous n'aviez pas à subir cela ». Et ces jugements qui sont rendus au nom de la République française, ils remettent de l'ordre dans le chaos du monde. Et ils remettent de l'ordre aussi pour celles et ceux qui comparaissent devant leurs juges. Donc oui, dans cette mesure-là, parce que ça vient nommer précisément les choses, ça répare dans une certaine mesure. Néanmoins, moi, les femmes que j'accompagne et qui sont traumatisées, voire polytraumatisées, je les invite à ne pas placer tous leurs espoirs thérapeutiques dans la justice. Ça n'a pas vocation à ça. Mais remettre de l'ordre dans le chaos du monde, c'est vraiment extrêmement salutaire.
Donc vous encouragez les femmes à continuer de porter plainte, d'essayer d'obtenir réparation par la justice, et donc le travail que vous faites. Ça a une utilité.
Oui, ça a une utilité. La question, est-ce que je les encourage ? Je les accompagne. Encore une fois, votre question, elle me renvoie à ma position, c'est-à-dire que je ne veux pas les contraindre. Je leur dis que c'est possible et je leur explique comment. Et parfois, moi, j'ai très envie qu'elles déposent plainte et elles le font pas. Et c'est une frustration énorme pour l'avocate que je suis parce que ce qu'elles subissent mériterait tellement d'être jugé. Mais évidemment, la décision leur appartient d'abord à elles et moi, je les remets décisionnaires de leur existence.
On évoquait ce qui a changé, ce qui reste à faire. Il y a encore des débats quand même, beaucoup, beaucoup, beaucoup dans la société, mais aussi en termes de justice. Par exemple, il y a le débat autour de la prescription. Mmh. Et il se trouve, Anne Bouillon, que vous êtes plutôt contre l'imprescriptibilité des crimes. Pour quelle raison ?
Parce que je suis avocate, je crois. Et parce que je suis dans les prétoires depuis de très nombreuses années et que j'ai à cœur qu'il n'y ait pas d'erreur judiciaire. Le temps efface beaucoup de choses.
Oui, mais en même temps, pardon de vous interrompre, vous disiez il faut aussi du temps pour ces femmes de dire les choses. Donc
tout est question d'équilibre. Et encore une fois, la justice ne doit pas être que la justice des victimes. Sinon, c'est pas de la justice. Il faut que la justice compose avec tous les intérêts en présence, ceux de la société, ceux de la victime, mais aussi les droits de la défense et ceux de l'accusé. Et je garde toujours ça en ligne de mire.
Vous cédez jamais à la présomption de culpabilité. Vous défendez bec et ongle la présomption d'innocence malgré tout.
Mais la présomption de culpabilité n'existe pas. Et il faut que ce soit la présomption d'innocence qui constitue la pierre angulaire de notre système judiciaire. Sinon, on n'est plus sur une justice juste. On est sur de la revanche et il en est hors de question.
C'est important de le dire, Anne Bouillon, parce qu'il y a une petite musique qu'on entend parfois dans la société, en particulier en ce qui vous concerne ou en ce qui concerne les avocates telles que vous, c'est-à-dire avocates et activistes, avocates de cause, dites-vous, c'est cette idée que vous avez pas, vous n'êtes pas porteuse d'une justice juste parce que vous êtes une avocate de cause. Donc c'est important de cadrer les choses.
Je crois, mais moi, j'ai pas l'impression d'avoir lâché la rampe sur cette exigence-là. J'ai pas l'impression d'avoir cédé quoi que ce soit. C'est pour ça que je suis contre l'imprescriptibilité, parce que je considère qu'il y a un moment donné où le risque est tellement grand de passer à côté de la vérité que ça l'emporte sur l'exigence de procès. Et je mesure à quel point cette parole-là peut faire violence à des victimes qui sont victimes à vie et qui, elles, peuvent légitimement dire qu'elles ont pris perpétuité dans la douleur et la souffrance qui est là. À l'heure, mais la justice n'est pas la loi du talion, et encore une fois, elle vient poser des principes qui nous gouvernent tous et toutes, et arrive un moment de temps où il n'est plus le temps du procès. Je crois qu'il y a d'autres manières de réparer, il y a d'autres espaces qui peuvent être investis pour se réparer soi-même et recouvrer, récupérer ce qui nous a été ôté lorsque l'on a subi des violences ou des violences sexuelles, et qu'il y a d'autres manières de punir également, il faudrait y réfléchir. Il y a d'autres manières de sanctionner que d'envoyer dans des prisons qui sont miteuses et des machines à broyer indignes. Et pourtant, c'est une avocate de partie civile qui vous parle. Voilà, je crois qu'il faut jamais faire l'économie de la réflexion et de l'appréhension de la complexité des choses.
Est-ce que vous regardez ailleurs comment ça se passe ? Est-ce qu'il y a des endroits, des pays qui sont des pays un peu modèles du point de vue de la justice dans les affaires de violences faites aux femmes ? Je sais pas, je pense à la Belgique, je pense à l'Espagne, mais peut-être qu'il y en a d'autres et peut-être que l'herbe n'est pas plus verte ailleurs.
C'est compliqué. Moi, je crois que les choses peuvent être extrêmement performantes et satisfaisantes en France. Il y a des juridictions qui sont des juridictions pilotes sur les politiques pénales mises en œuvre, sur la codification ou en jurisprudence de concepts. Je pense à la notion de contrôle coercitif qui est arrivée en jurisprudence sous l'égide de la Cour d'appel de Poitiers il n'y a pas très longtemps. Vous voyez, il n'y a pas très longtemps, la Cour de cassation a pu dire que l'état de sidération ne venait pas exonérer un responsable, un violeur, ou plus exactement que on pouvait être sidéré et que pour autant l'intention criminelle de l'auteur n'était pas contestable, alors que la victime sidérée n'avait pu opposer aucun geste de résistance. Donc on peut faire évoluer nos concepts avec les outils qui sont les nôtres dès lors qu'on le souhaite. C'est sûr qu'on a des leçons à prendre de nos amis espagnols, de nos voisins espagnols qui ont, depuis belle lurette, hein, 2004, la première loi cadre espagnole sur les violences faites aux femmes. Nous, ce qu'on ne fait pas, c'est genrer les choses. C'est-à-dire qu'on ne dit toujours pas, juridiquement, que ce sont des violences faites aux femmes. On parle de violences intrafamiliales, on parle de violences... On euphémise un petit peu cette question-là. Les Espagnols ont passé le cap. Ils ont une législation qui est une législation genrée. Ils analysent les choses en termes de rapport de genre. Et donc, ils ont... franchi cette étape-là parce qu'ils ont eu le souhait d'appréhender les choses, encore une fois, au plus près de leur réalité, des violences systémiques produites par les hommes, subies par les femmes, de manière à pouvoir appréhender le phénomène dans sa réalité. Est-ce que c'est un pas qu'on doit franchir en France ou pas ? Ça poserait des questions en termes de constitutionnalité, ça poserait des... J'ai pas de réponse à ça. En tout cas, on doit ne jamais cesser de réfléchir à optimiser le système judiciaire, à faire circuler l'information. Quand on voit que la simple circulation d'informations entre les services est quelque chose de récent, entre les affaires familiales, les services d'exécution des peines, le procureur de la République, le juge des enfants. En fait, vous savez, quand on adresse une situation à la justice, alors on va toquer à plein de portes différentes. Moi, il m'arrive de saisir 3 juges différents sur une seule situation. Je crois qu'on gagnerait beaucoup aussi à simplifier les choses.
Vous parlez de punition, vous parlez d'éducation. Peut-être peut-on ajouter un troisième terme qui est important, parce qu'on le voit dans votre livre « Affaires de femmes », notamment avec l'histoire de Géraldine ou l'histoire de Rose et Kyle, c'est la protection. Est-ce qu'on manque pas de culture de protection en France ?
C'est une idée nouvelle, hein, la culture de la protection. Mais là aussi, c'est corrélé à l'importance que l'on accorde à la parole de ces femmes et à la prise au sérieux de la parole de ces femmes. Moi, je rencontre des femmes. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des personnes qui ont peur. et qui vivent avec la peur chevillée au ventre, mais on ne vit plus quand on a peur, on survit. C'est-à-dire que l'espace vital est réduit à peau de chagrin, on est en vigilance constante, la moindre porte qui claque, on sursaute, on anticipe tout, on est en... Voilà, avoir peur, moi je rencontre des femmes qui ont peur et qui ne vivent plus. Et donc, prendre en compte cet état-là et venir soulager cette souffrance-là, c'est une demande qui est légitime, je crois, à l'adresse de l'institution judiciaire et policière qui, trop longtemps, s'est contentée de recueillir des éléments de preuve pour aller chercher les méchants et les juger, mais sans se soucier de ce qu'il advenait de la victime qu'on n'informait pas et qui était finalement la laissée pour compte du processus judiciaire. On a évolué sur ces questions-là. 2010, on a les premières lois sur les ordonnances de protection judiciaire. Et puis, on a des mécanismes de protection qui se sont mis en place. Téléphone grave danger, bracelet anti-rapprochement. Tous ces mécanismes-là qui font qu'aujourd'hui, on a une protection qui est plus efficiente. Mais là aussi, on part vraiment de très loin.
Anne Bouillon, vous dites souvent, et vous l'avez souvent dit dans ces 5 entretiens, que pour vous, le procès, c'est aussi un acte politique, que la façon dont vous plaidez, c'est une façon politique de le faire. Alors, puisque dans les prétoires, vous faites de la politique, vous n'avez pas envie d'en faire en dehors des prétoires?
Non. J'ai pu y penser. Ma place, elle est tellement là, en fait. Et puis, j'ai l'impression de faire de la politique, en fait, en vous parlant, en publiant ce livre, en publiant d'autres tribunes.
Vous intervenez beaucoup dans les médias. Vous avez écrit 2 livres, pas seulement un roman graphique et un livre.
C'est vrai, co-écrit avec Charlotte Rottmann. Mais non, j'ai l'impression d'avoir une action citoyenne politique dans le sens presque noble du terme. Et j'ai beaucoup de respect pour les hommes et les femmes politiques. Mais moi, j'ai l'impression que ma place, elle est ici, que la différence que je peux faire, elle est ici. Je saurais pas écrire des lois ou je saurais pas bien le faire. Et non, je suis bien à ma fonction d'avocate activiste.
Mais la notoriété, la médiatisation, ça compte? Ou ça peut être contre-productif?
Non, ça compte parce que ce qui n'est pas nommé n'existe pas. Prendre conscience de ce que des combats sont à mener, y compris dans l'espace judiciaire, pour que les femmes souffrent moins et subissent moins de violences, il faut le dire, il faut le crier, il faut jamais lâcher l'affaire. Et moi, je me sers de la médiatisation précisément pour faire passer ce message-là, pour amener sur la scène de ce que je vis au quotidien et dire, voilà, la réalité, celle que moi, je perçois, c'est celle-ci et il faut que ça cesse, il faut que ça s'arrête. Il faut qu'on arrête de tuer les femmes, il faut qu'on arrête de leur faire subir des viols. Pouvoir changer les choses, ça passe d'abord par le fait de les révéler, de les nommer.
Vous pensez que ça s'arrêtera un jour ?
Je crois que ça s'atténuera. Moi, j'ai vraiment cet espoir-là. Je crois qu'on peut être différent. Françoise Héritier disait que ce qui a été construit peut être déconstruit. Et moi, je crois profondément en ça. Je crois, j'ai une fille, on a parlé de 18 ans, qui vit les choses tellement différemment de celles que la manière dont moi je les vivais à son âge. Et elle envisage les rapports amoureux, les rapports de couple de manière tellement différente. Et elle a une intolérance aux violences qui est tellement aiguë par rapport à celle qui était la mienne au même âge. Donc oui, les générations se saisissent, les nouvelles générations se saisissent de ça, et moi, mon regard se tourne vers eux, vers elles, pour éradiquer les violences, oui, bien sûr.
Merci beaucoup, Anne Bouillon.
Merci.
Et merci pour ces 5 entretiens. C'était À Voix Nue avec Anne Bouillon, réalisation Anne Pérez-Franchini, prise de son Geoffrey Marianne, chargée de programme À Voix Nue Daphné Abgral. Une série de Caroline Brou est disponible sur le site de France Culture et l'application Radio France.